Mon histoire des femmes, par Michel Perrault, 12e épisode.
Femmes, vous êtes toutes des hérétiques, disait George Sand dans Consuelo, un de ses plus grands romans, un grand roman sur les sectes et les sociétés secrètes dans l'Allemagne moderne, dont je vous recommande la lecture si vous ne l'avez pas lu. Bien sûr, c'est une boutade, mais ça traduit du vrai. Les femmes furent parfois tentées par la subversion d'un pouvoir religieux qui les domine et les nie souvent, comme nous l'avons vu hier. Le pouvoir des clercs et des princes est un pouvoir d'hommes. Misogynes, parce qu'ils sont convaincus de l'impureté et de l'infériorité de la femme, voire de sa mauvaiseté, comme on disait autrefois. D'où l'attrait de ces femmes, pour ce que Michel Foucault, dans un de ses derniers cours au Collège de France, appelait les contre-conduites, et dont je voudrais vous parler aujourd'hui, les contre-conduites religieuses. Les femmes ont été nombreuses dans les sectes qui exprimèrent l'inquiétude religieuse du Moyen-Âge dès le XIIe siècle. La plupart des sectes remettaient en cause le pouvoir des clercs. Et la hiérarchie des sexes, très souvent, il y avait un contenu sexuel dans ces sectes. Elle préconisait, ces sectes, une beaucoup plus grande égalité sexuelle et une moindre chasteté. Ainsi, pour les Lollardes, les Bégards ou les Hussites de Bohême. Justement, ces Hussites dont parle George Sand dans son roman et qui revendiquaient, par exemple, l'Eucharistie sous les deux espèces, parce que tout le monde devait pouvoir accéder au calice. Un des mouvements les plus intéressants dans ces sectes, c'est celui des béguines. Les béguines, c'était des communautés de femmes qui vivaient ensemble dans un même lieu, dans un même enclos. Elles vivaient d'aumônes, mais surtout, et c'est très original, de leur salaire. Elles gagnaient salaire dans les soins médicaux ou bien dans le travail du textile, qui était déjà très important dans la Flandre de cette époque-là. Elles ont été particulièrement nombreuses en Allemagne et en Flandre, où il y avait, semble-t-il, un surplus de femmes seules, ce qui posait une véritable question des femmes. Frauenfrage, comme disaient les Allemands. Aujourd'hui encore, on peut admirer les béguinages de Bruges ou d'Amsterdam, qui évidemment sont très très soignés, ça fait partie du patrimoine de ces pays, mais qui sont très évocateurs avec leurs petites chambres isolées pour une femme par chambre, et ça a beaucoup de charme. Ces femmes, elles étaient en dehors des ordres religieux, elles, un petit peu comme la Catherine de Sienne dont je vous parlais la dernière fois, elles ne voulaient pas être dans des ordres tout en étant des célibataires. Et en somme, elles étaient incontrôlées et considérées comme dangereuses. L'Inquisition s'en prit à elles. Ainsi, Marguerite Porrette, qui était une mystique cultivée, qui était une béguine, et qui a écrit un miroir des âmes simples, où elle défendait comme un traité du libre-esprit, elle osait y exprimer des vues théologiques, alors ça se fait pas, hein, une femme n'a pas à parler de théologie, elle osait dire que l'amour de Dieu ne passait pas nécessairement par les prêtres. Eh bien, Marguerite Porrette, comparut devant le tribunal de l'Inquisition à Paris, et elle fut brûlée en 1310. Ben, voilà un exemple d'une béguine qui nous paraît aujourd'hui vraiment bien inoffensive et qui a été brûlée pour son mode de vie, mais peut-être aussi par sa prétention théologique. Ça, c'est tout à fait possible. Ce sont les premiers feux d'un incendie qui allait embraser l'Europe des sorcières. Et cela, surtout après la publication du Malleus Maleficorum, le marteau des sorcières. Alors, qu'est-ce que c'est que le marteau des sorcières? Le marteau des sorcières est un livre qui a été fait par des dominicains, Kremer et Springer, et qui a été publié en 1486. Et ce livre a eu un énorme succès, Il a eu près d'une vingtaine d'éditions en 30 ans. Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre? C'est une enquête qui avait été commanditée par l'Inquisition, et ces Dominicains avaient fait très sérieusement leur travail, avec toutes sortes d'enquêteurs, et ils voulaient à la fois décrire les sorcières et leurs pratiques, et puis aussi dire ce qu'il convient d'en penser. Beaucoup de mal, assurément. Ce qui justifiait leur condamnation au feu purificateur. Et à la suite de ce livre, commença un grand mouvement systématique d'arrestation et de traduction des sorcières devant les tribunaux de l'Inquisition. Elles furent massivement arrêtées et brûlées, notamment en Allemagne, en Suisse et en France, et en particulier dans la France de l'Est, c'est-à-dire la Franche-Comté et la Lorraine. Mais on trouve aussi des sorcières brûlées en Italie et en Espagne. Le mal a embrassé l'Europe. Et on estime, naturellement c'est une estimation, à 100 000 le nombre des victimes. C'était des femmes à 90%. Il y avait bien quelques hommes sorciers, mais celles qui furent brûlées, ce furent essentiellement des femmes. La vague de répression a été amorcée à la fin du 15e, on l'a vu même au début, un petit peu avant, Marguerite Porrette, c'est 1310, et à certains égards, Jeanne d'Arc fait partie de cela. Jeanne d'Arc, elle est brûlée comme relapse, comme hérétique et comme sorcière. Et qu'est-ce qu'on lui reproche au titre de sorcière? Eh bien, d'avoir coupé ses cheveux, d'être habillée en homme, de monter à cheval et d'avoir entendu des voix. Hein. Et on essaie même d'insinuer qu'elle a une vie sexuelle. Or, justement, elle était vierge. Et de ce point de vue, ce fut très difficile d'arriver à penser qu'elle était complètement une sorcière. Enfin, elle fut brûlée au nom du fait qu'elle était une sorcière. Cette vague de répression a culminé au XVIe et XVIIe siècle. Et alors, il y a un fait curieux, c'est que cette répression coïncide avec la Renaissance, l'humanisme et la Réforme. On aurait pu s'attendre à autre chose dans cette époque de réflexion de qu'était l'humanisme et la Renaissance. Mais on observe que sur ce point, les protestants étaient tout à fait d'accord avec les catholiques sur la nocivité des sorcières. Et ce qui explique d'ailleurs la place de l'Allemagne dans la géographie débuchée. Et d'ailleurs, la peinture allemande, Luca Crana, Hans Baldungrin, est une de celles qui leur accorde le plus de place. Et il y a des toiles de Crana et de Green qui montrent justement des sorcières en action et des sorcières au bûcher. Et les humanistes aussi était d'accord. Il y en a un qui fait exception, c'est un Italien qui s'appelle Cornelius Agrippa, et d'ailleurs lui-même a été persécuté pour complicité avec les sorcières parce que, justement, il ne les condamnait pas. Mais les autres, Ficin, Pic de la Mirandole, Jean Bodin, tous ces humanistes connus, eh bien, ils faisaient chorus contre les sorcières. Par exemple, le français Jean Bodin, très connu pour ses traités sur la famille et sur l'économie, a publié un livre qui s'appelle « De la démonomanie », qui est un classique du genre. Dans un livre relativement récent, enfin qui a été traduit en français en 2004, chez Léo Cher, Esther Cohen étudie cela. Son livre s'appelle « Le corps du diable, philosophe et sorcière à la Renaissance ». Et elle souligne justement ce fait de la coïncidence entre humanisme et sorcellerie. Le philosophe, dit-elle, et la sorcière forment couple. En effet, au nom de la science, la rationalité occidentale éradique les figures de l'altérité. Le juif, l'étranger, la sorcière. Et on peut dire que cette histoire confirme la réflexion ultérieure des gens de ce qu'on appelle l'école de Francfort, Adorno et Walter Benjamin. Selon eux, il y a un lien entre le processus de civilisation et la barbarie. Le progrès et la violence marchent souvent de pair. dans la société et la civilisation occidentale, moderne et contemporaine. Et au fond, les sorcières apparaissent comme des boucs émissaires de la modernité. Reproche exactement aux sorcières. Beaucoup de choses mêlées. D'abord, elles offensent la raison et la médecine moderne par leurs pratiques magiques. Elles prétendent, les sorcières, guérir les corps, non seulement par les simples, c'est-à-dire par les plantes. Il y avait une médecine des plantes dont les sorcières étaient les pratiquantes, mais aussi par des élixirs de leur composition. Elle mélangeait toutes sortes de choses, du venin de crapaud, de l'urine d'homme, du sang de femme, etc., etc. Et puis, l'usage de formules magiques. Alors, tout ça était évidemment une offense à la rationalité médicale qui, justement, se développe à l'époque de la Renaissance. Ça, c'est une première chose. D'autre part, on leur reproche leur sexualité débridée. Elles ont, selon le marteau des sorcières dont je vous parlais tout à l'heure, le vagin insatiable. Et ça rejoint ce problème de la représentation de la sexualité féminine dont nous parlions la dernière fois. Elles pratiquent aussi une sexualité subversive de ce que doit être une bonne sexualité féminine. Les vieilles sorcières, car il y a beaucoup de vieilles sorcières, eh ben elles font l'amour à un âge où elles ne devraient plus le faire. Car il est considéré que, après la ménopause, les femmes doivent se retirer du champ de l'amour. Et puis aussi, elles ont des positions qui ne sont pas du tout normales. La position normale, selon l'Église, c'est les femmes dessous, les hommes dessus, ce qu'on appellera plus tard la position du missionnaire. Les sorcières, elles attrapent les hommes par derrière, ou bien elles les chevauchent. Alors ça, une femme qui chevauche un homme, c'est tout à fait mal vu par l'Église. C'est vraiment un acte de sorcière. Et de ce point de vue-là, les sorcières se situent du côté de Lilith, qui, dans la tradition, a été la première femme d'Adam. Adam aurait eu une première femme, et elle l'aurait quitté, Lilith aurait quitté Adam, justement parce qu'il refusait d'être monté par elle. Naturellement, tout ça, c'est la tradition du Moyen-Âge et de tout ce qu'on raconte. Donc, il y a dans tout cela une dimension érotique essentielle. Les sorcières incarnent le désordre des sens, la part maudite, comme dira Georges Bataille, dont on parle beaucoup avec l'édition de ses œuvres en Pléiade. Et justement, dans une société, celle de la Renaissance, qui ordonne les corps et les met dans une position raisonnable. Voilà par conséquent un deuxième ensemble de faits. Et puis le troisième, très important, elles ont contact avec le diable. Justement, le concile de Latran a établi l'existence du diable et développé la théologie du diable. Or, la sorcière parle au diable, elle est le diable à certains points de vue. Son regard tue, elle a le mauvais œil, c'est-à-dire l'œil du diable, et elle est initiée par le diable. Autrement dit, la sorcière nargue tous les pouvoirs, celui des prêtres, celui des souverains, celui des hommes, celui de la médecine, celui de la raison. Alors, comment faire ? Une seule solution, il faut extirper le mal, il faut les détruire, il faut les brûler, parce qu'en même temps, il faut se purifier. La sorcière est impure. Ainsi s'amorça ce gigantesque incendie à l'aube de la modernité qui fit des sorcières comme des boucs émissaires de la raison, en quelque sorte. Au XVIIe siècle, le mal des sorcières s'atténue, mais il continue par la possession. Il y a eu des histoires de possession. Par exemple, les fameuses possédées de Loudun. Ça se passait dans un ordre religieux à Loudun, et les sœurs, les religieuses, prétendaient qu'elles étaient ensorcelées. Simplement, la différence des sorcières, elles voulaient en sortir. Et elles prétendaient que c'était le prêtre, l'aumônier, Urbain Grandier, qui les avait initiées à la sorcellerie. Alors, Richelieu, le pouvoir royal, s'est rebellé, en quelque sorte, contre cette contestation de son pouvoir, et Urbain Grandier a été brûlé. Mais ça, la différence, c'est que cette fois-ci, c'est le prêtre qui est brûlé. Mais toutes ces histoires de possession sont comme une continuation des histoires de la sorcellerie. Bien plus tard, on réhabilita les sorcières. Et un des premiers à l'avoir fait, c'est Michelet. Il leur a consacré un livre étincelant, La sorcière, en 1862. Et ce livre est un hymne à la femme, bienfaisante et victime. Mais ceci dit, et comme l'écrit Salman, la sorcière de Michelet n'est ni laide ni vieille, ni même malfaisante. Elle est simplement l'une des incarnations de la femme, cette tendre mère, gardienne et nourrice fidèle, dont Michelet fait le personnage central de son œuvre, victime et non pas criminelle. Donc il réhabilite la sorcière, mais d'un autre côté, il reste dans la logique même qu'il dénonce, c'est-à-dire que Michelet ne remet pas en cause l'idée d'un lien privilégié entre la femme et les puissances occultes. Il croit que les sorcières avaient véritablement ce lien avec les puissances occultes. Depuis une trentaine d'années, il y a eu énormément de travaux sur les sorcières. Par exemple, Robert Mandrou, qui dans Magistrat et sorcier, a travaillé justement sur les procès de sorcellerie. L'Italien Carlo Ginzburg, qui a étudié le sabbat des sorcières. L'ethnologue Jeanne Favre-Saada, qui a, en ethnologue, étudié les pratiques de sorcellerie du bocage dans un livre qui a fait date, publié en 89, Les mots, la mort, les sorts. Et puis Salman, qui il y a pas longtemps a publié « Les sorcières fiancées de Satan » et donné une très belle synthèse sur les sorcières dans le tome 3 de « L'histoire des femmes en Occident ». Et puis le livre dont je vous parlais, « Le corps du diable » d'Esther Cohen. Ce qui est amusant à observer, c'est que les féministes des années 70 souhaitaient aussi réhabiliter les sorcières, et elles s'en revendiquaient, sans être évidemment, vous l'imaginez, nullement sorcières. Mais par exemple, dans les manifestations, elles brandissaient le balai des ménagères, mais aussi le balai des sorcières. Et Xavier Gautier a fondé une revue qui s'appelait justement « Sorcières », où elle entendait étudier les pratiques subversives des femmes, et cette revue était d'un très grand intérêt. Aujourd'hui, Xavier Gautier étudie l'histoire de l'avortement. Elle a publié un livre sur Louise Michel, la Vierge Rouge, morte il y a tout juste un siècle, et on parlera certainement d'elle tous ces temps-ci. Mais la sorcellerie de Louise Michel, c'était la Révolution. Elle aimait les chats, mais ça ne suffit pas à faire d'elle une sorcière. C'était une femme subversive, tout simplement.
Histoire des femmes par Michel Perrault. Réalisation Pierre-Yves Perronneau.